Pour cet autre message aujourd'hui, pour ce jour des pains sans levain, le titre est le suivant, « Les temps où nous sommes ». Les temps où nous sommes, de deux aspects. Les temps des fêtes, dans lesquels nous sommes entrés, fête des pains sans levain après la Pâque, et de façon générale, l'époque sur la scène mondiale où nous sommes rendus. Allez à Exode, s'il vous plaît, le chapitre 12, un verset qu'on a lu à quelques reprises depuis quelques jours et même dans la préparation de ces belles fêtes du printemps. Exode 12, ici, c'est les directives que Dieu a données aux Israélites pour la prise de la Pâque, première Pâque, et ensuite pour la fête des pains sans levain. Et regardez au verset 11, on va aller directement au verset 11, il dit « Quand vous la mangerez », en parlant de la Pâque, là, le petit agneau qu'il devait immoler à un moment précis, il dit « Quand vous mangerez la Pâque, le soir de la Pâque, vous aurez vos reins sains, c'est-à-dire vous serez habillés, vous aurez votre ceinture, tout votre linge sur le dos, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous la mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. » Alors, c'est un premier aspect sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que faisant partie des fêtes du printemps à partir de la Pâque et aussi les pains sans levain ensuite, c'est que ça doit se faire à la hâte, c'est-à-dire avec un sentiment d'urgence, en sachant ce que ça veut dire, et pour nous qui sommes rendus à la fin de l'histoire humaine, telle que nous la connaissons, de réaliser là où nous sommes rendus, dans le temps qui est consacré, qui a été alloué à l'humanité. Alors, ils devaient manger la Pâque à la hâte. Et ça a une importance majeure pour nous aujourd'hui, cet aspect-là. Ça veut dire être prêt. Et on voit qu'ils étaient prêts, là. Même ils avaient leur bâton à la main. Ils ne sont pas partis immédiatement, mais il fallait qu'ils soient prêts pour quand le signal était donné de partir le lendemain matin. Il fallait que tout soit en ordre et prêt à démarrer. Alors, ça nous donne à nous l'atmosphère dans laquelle on doit vivre ces choses-là et comment on doit considérer notre cheminement, comment on doit considérer les fêtes et comment on doit considérer notre préparation aux événements qui viennent. Un de ces événements-là, c'est le fait d'aller jusque vers la vie éternelle, mais l'autre événement, pour s'y rendre, c'est de passer à travers les événements sur la scène mondiale qui commencent à se bousculer de plus en plus. Il y a ces deux aspects-là là-dedans, en ce qui concerne de prendre la Pâque à la hâte et de vivre les fêtes de Dieu avec un sentiment d'urgence dans le cœur et dans l'esprit. Ça veut dire en même temps de ne pas prendre les directives qui nous sont données à la légère. Vous savez, ce soir-là en Égypte, ils devaient absolument suivre les directives précises qui avaient été données par Dieu. S'il y avait des Israélites qui étaient sortis de leur maison, ils seraient morts, parce que l'ange de la mort les aurait atteints. L'Éternel avait été très clair dans les directives, et ils l'ont fait. Quand ça a été le temps de partir, il leur a dit, et là, ils ont parti. Et leur armée, pour ainsi dire, a marché en ordre, les 12 tribus. Dieu est un Dieu d'ordre, et ce sera comme ça aussi au temps de la fin. Alors, un sentiment d'urgence, donc, lié à la situation. Et eux, c'était un sentiment d'urgence, donc, aussi lié au départ qui s'en venait. Parce que là, il allait sortir d'Égypte. Il se préparait à cet immense branle-bas de combat où une nation de plus de 3 millions de personnes allait quitter un pays pour aller à un autre endroit. C'est impressionnant. Alors, le premier point, donc, c'est prendre les choses au sérieux, considérer notre appel comme valable et agir en conséquence. Le deuxième point, on le trouve au verset 14 et 15, du même chapitre 12 d'Exode, versets 14 et 15, « Vous célébrerez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. » Perpétuelle, c'est pour toujours. Quand les gens disent que les fêtes de Dieu font partie de l'Ancien Testament, que ce n'est pas applicable aujourd'hui, perpétuelle, c'est toujours. Alors, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants pendant 7 jours. Vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait le ménage avant le temps des pains sans levain. On a sorti tout ce qui contenait du levain, les tartes, le pain, les gâteaux, tout ce qui peut en avoir, les biscuits. Il dit, il n'y aura pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, consciemment, qui va continuer à en manger, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. C'était normal parce que s'il ne suivait pas ce que Dieu disait, il n'y avait pas ce sentiment d'urgence ni ce désir d'obéir. Alors, c'est pour ça qu'on s'est préparé et qu'il n'y a plus de levain dans nos maisons et que ça va être comme ça pour les 7 prochains jours, jusqu'après le 7e jour. Alors, le point sur lequel je vais attirer votre attention, le deuxième, premièrement, sentiment d'urgence, prendre les choses au sérieux, et deuxièmement, durant ces 7 jours devant nous, à partir d'aujourd'hui, on doit manger des pains sans levain. Ça ne veut pas dire qu'on doit en manger en grande quantité absolument. Certains aiment ça beaucoup. Moi, je suis friand de ça, donc j'en profite. Et c'est un petit peu une bénédiction quand on arrive à cette époque-là. D'autres sont moins attirés, et c'est pas un problème. Sauf que la Bible dit qu'il faut en manger un peu chaque jour. C'est ça. Il faut que chaque jour, on en mange un peu. Et ça fait partie du commandement. On sort le levain. Et l'autre aspect, de manger chaque jour des pains sans levain durant 7 jours. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il faut remplacer les produits levés avec des produits non levés. La nature a horreur du vide. Je ne peux pas simplement cesser de faire des choses qui ne sont pas correctes. Il faut que je les remplace par quelque chose de bon. La nature a horreur du vide. Et je travaille à plaire à mon Dieu en vivant selon les directives qu'il me montre. Et ce faisant, je suis en train de remplacer le pain levé de mes voies mauvaises par le pain sans levain de la justice de Dieu. Voyez-vous, ça va exactement ensemble. Je ne peux pas dire je ne mange plus de pain levé, donc j'ai oublié au commandement. Non. Physiquement, je mange un peu de pain sans levain chaque jour. Et dans ma vie spirituelle, je remplis ce vide par le fait de suivre Dieu dans les directives qu'il me donne. Alors donc, à la hâte, se dépêcher, avoir du zèle, avoir de l'ardeur. Et cette semaine, quand on va faire nos études, chaque jour, on va orienter ces études-là vers la voie chrétienne, vers ce qu'on doit encore développer, vers continuer à s'examiner pour voir les autres aspects que Dieu veut qu'on change et qu'on n'a peut-être pas vus. On peut même lui demander, David le faisait, « Montre-moi les fautes que j'ignore. » Et Dieu est gentil parce qu'il ne nous montre pas toutes nos fautes d'un coup. Ça serait décourageant. Si quand il appelle quelqu'un, il donnait une liste, d'abord, il faudrait qu'elle soit très, très longue, là, mais s'il fallait qu'il donne une liste de tout ce qu'on a à changer, on serait découragé. Mais c'est un bon père, il va graduellement, il nous aide à changer les choses qu'on a à changer. Et même si on est dans l'Église depuis de nombreuses années, je sais, ça fait longtemps que je suis dans l'Église, et je sais que j'ai encore des choses à changer. Donc, voyez-vous, c'est jamais fini tant qu'on n'aura pas été transformé complètement. Alors, c'est ça, c'est la diligence, l'ardeur de continuer. C'est le contraire de la lenteur, de se hâter de changer, c'est le contraire de la lenteur. C'est le contraire de la mollesse, ou de prendre ça mollo, de prendre ça tranquillement, ou de considérer les choses qu'on a à faire comme pas urgentes ou pas si importantes que l'Église le dit. Non, c'est pas pour rien que l'Église parle, si vous avez remarqué, de plus en plus clairement de ce qui vient, de ce qu'on a à faire et de comment on doit s'y préparer. Ce n'est pas des paroles en l'air. Comme ce n'était pas des paroles en l'air quand Moïse a averti le peuple de certaines choses et leur a demandé de faire les choses d'une certaine façon. Alors, on doit y aller de tout notre cœur. Il y a 2 versets qui décrivent l'empressement que nous devons développer, cet empressement-là dont je vous parle, si on veut atteindre le but. Notre but, c'est pas seulement dans la vie physique actuellement. On est actuellement seulement à l'entraînement, en vue de la vie éternelle. Et une vie humaine, ça passe vite. Les plus âgés d'entre nous, on regarde en arrière et on voit que ça a passé rapidement. Les plus jeunes commencent à se rendre compte un peu que ça va vite aussi. Alors, cette vie physique-là, elle est temporaire, elle est éphémère et elle passe rapidement. On s'en va vers quelque chose de permanent et quelque chose de beaucoup plus attrayant. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'empressement si on veut atteindre ce but-là, de naître un jour dans la famille de Dieu en tant qu'être éternel. Allez à Deutéronome, chapitre 11. Deutéronome, chapitre 11. Regardez le verset 8. « Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force... » Il s'adressait ici aux Israélites physiques qui devaient à ce moment-là entrer en terre promise. Il dit, « Observez mes commandements, tout ce que je vous prescris, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays que vous allez prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours, et ainsi de suite. » Alors, voyez-vous, il dit, « Observez mes commandements, afin que vous ayez la force. » Donc, il y a un lien entre le fait de s'appliquer, à observer les commandements de Dieu et avoir la force nécessaire pour entrer dans le royaume, pour passer à travers les embûches qui viennent, pour passer à travers les défis, pour rencontrer avec succès les obstacles qui se présentent. Ça, c'était physiquement pour eux. Pour nous, c'est la même chose, mais sur le plan spirituel. Et ça correspond exactement à ce que la Bible nous dit dans Matthieu 11. Vous pouvez aller voir dans Matthieu 11, on va lire le verset 12, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Ou nous sommes avec lui de tout cœur, ou bien il considère que nous ne sommes pas avec lui. On ne peut pas être à moitié. C'est un ou l'autre, même si on n'est pas parfait pour l'instant, là. Il faut avoir notre cœur avec lui et le supplier et continuer d'avancer. Avec Dieu, comme M. Appartient disait à quelques occasions, c'est tout ou rien. Alors, on y va pour le tout. Et le tout, c'est la vie éternelle et un travail d'ici là qui va demander des efforts, qui va demander de la persévérance. Parce qu'il dit, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui vont être sauvés, qui vont recevoir la vie éternelle. Alors ici, quand il dit aux Israélites, observez mes commandements et vous allez avoir la force de vous emparer du pays. Le Christ a mentionné la même chose dans Matthieu 11, verset 12, quand il dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ici, le mot violent, ce n'est pas dans le sens péjoratif de ceux qui sont brutaux, ceux qui sont brutaux ou ceux qui sont méchants. C'est ceux qui sont zélés. Le vrai sens du mot violent, c'est ceux qui sont zélés. Donc, qui se hâtent d'obéir aux lois de Dieu. Et en obéissant aux lois de Dieu, avec son aide au mieux, à ce moment-là, ils acquièrent la force de s'emparer du royaume. C'est dans ce sens-là que c'est présenté. C'est intéressant parce que les deux correspondent. Et vous savez, il faut vraiment compter sur Dieu à tout moment. On ne sait pas d'une journée à l'autre ce qui nous attend. Et on ne sait pas comment les choses vont se présenter. Et parfois, on ne sait même pas. On est des êtres imprévisibles un peu aussi. On ne sait même pas comment on va réagir dans telle ou telle circonstance. Comprenez-vous pourquoi à chaque jour, il faut demander à Dieu d'être avec nous, d'être proche de nous autres, pour nous aider à manœuvrer à travers toutes ces circonstances-là qui se présentent, pour ne pas se décourager, pour faire les bonnes choses, pour mettre les bonnes priorités, garder notre élan d'étude, de prière chaque jour, de jeûne régulier, et de compter sur lui, et de s'habituer à remettre tout entre ses mains, même les petites choses de notre vie. Parce que c'est encore une question d'habitude. Plus on remet dans ses mains les petites choses de chacune de nos journées, plus on s'habitue à le faire, et plus ça devient comme une seconde nature. On compte sur lui tout le temps. Et avant de prendre des décisions ou de faire des choses, sans avoir le temps d'aller se mettre à genoux dans notre chambre ou dans notre bureau pour le prier, on lui parle parce qu'on lui a parlé le matin. La ligne est restée ouverte. On peut lui demander de nous guider ou de mettre sa main s'il ne faut pas qu'on aille dans telle direction ou d'ouvrir une porte ou de disposer un cœur de quelqu'un si on doit aller dans telle autre direction. Alors, voyez-vous, si on fait ça, on fait ce que la Bible nous dit. On marche avec Dieu. Marcher avec quelqu'un, c'est d'être à côté de lui, d'avoir un peu le même pas, de se parler. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Marcher avec Dieu, c'est de lui demander régulièrement son aide, d'être avec nous, qu'il soit à nos côtés. Il sera ton ombrage et ton gardien. C'est un des cantiques qu'on chante parfois le soir de la Pâque. L'Éternel sera à ta droite, il sera ton ombrage et ton gardien. Vers les monts, je lèverai les yeux pour voir d'où viendra mon secours. Bon, bien, dans les journées, on a des obstacles, on a des difficultés qui arrivent. Notre secours, il vient de là. Il vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, comme le cantique dit. Alors, voyez-vous, si on est en communication avec lui là-dessus régulièrement, bien, notre secours, il est là et il agit. Pourquoi? Parce qu'on est tout proche et qu'on lui demande. Il dit, demandez, vous recevrez. C'est une promesse. On peut aller devant lui aussi, comme M. Ames nous montre, et demander, lui rappeler sa promesse. Dire, Père, tu l'as dit, que tu nous donnerais ce qu'on a besoin. Aide-moi dans telle ou telle situation à faire ta volonté. Et s'il y a des choses que moi, je ne vois pas comme il faut, ou que je désire des choses que je ne dois pas désirer, aide-moi à le voir, puis aide-moi à avoir la force de faire les choses de bonne façon. Alors, il faut demander à Dieu. Allez dans Psaume 51. Un très beau psaume. Psaume 51, ici, c'est le roi David qui s'est habitué à être très proche de Dieu, qui est même devenu, moi j'aime l'expression, un homme selon son cœur. Et des fois, je dis à Dieu, j'aimerais ça devenir un homme selon ton cœur à un moment donné, comme David était. On peut atteindre, on peut chercher un but comme ça. Et David était humain. David a fait des erreurs majeures même, mais il s'est repenti, il s'est toujours repenti, et il n'a pas recommis la même erreur. Il a travaillé justement à ne pas la recommettre dans les choses importantes, majeures qu'il a faites de travers. Psaume 51, et regardez le verset 12, ce que David demande à Dieu. Ça, c'est dans le contexte où le prophète de Dieu est allé montrer à David qu'il avait très mal agi, qu'il avait péché. David s'est repenti, et voici ce que David dit à Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Crée en moi un cœur pur, afin que je voie les choses comme tu les vois et que j'aie le désir d'aller plus loin pour être zélé et faire ta volonté. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est important. Vous savez, tout nous vient de Dieu. La Bible dit qu'il nous donne même le vouloir et le faire. Ça rejoint ça. C'est même lui qui peut nous donner de vouloir faire quelque chose. Parce qu'au point de départ, des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, qu'on n'a pas le goût de faire. Mais il dit, donne-moi un cœur pur puis un esprit bien disposé pour que j'aie le vouloir et la capacité de faire ce que j'ai à faire. On retrouve quelque chose de semblable dans Psaume 86. C'est encourageant quand on met ces versets-là ensemble. Psaume 86, lisons le verset 11 et 12. Regardez ce qu'il dit ici. David, c'est encore David qui parle. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. » Et même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, et même davantage que quelqu'un est dans l'Église, on a encore besoin de demander à Dieu qu'il nous enseigne ses voies, qu'on en voie l'ampleur, la profondeur, qu'on aille plus loin. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Ça, c'est le respect de Dieu et de ce qu'il demande. Et si David allait faire ça, et c'est ce qu'il a fait, regardez, « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. » Donc, je te serai reconnaissant. Je vais te l'exprimer, non seulement dans des mots, mais dans ma façon d'agir, pour que ça te plaise. Et je glorifierai ton nom. Et regardez, David avait déjà la dimension de la vie éternelle. « Je glorifierai ton nom à perpétuité. » Encore une chose perpétuelle. Parce que David visait aussi la vie éternelle. Et quand nous serons entrés dans la famille de Dieu, que nous serons nés de nouveau, à ce moment-là, nous allons remercier Dieu éternellement. Nous serons rendus dans une situation extraordinaire, celle qu'on attend et qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Dieu a répondu à David. Il lui a donné ce cœur pur-là parce que Dieu dit que David, c'est un homme selon son cœur. Donc, Dieu a répondu à David. et il a manifesté sa bonté envers lui. Ça, c'est une autre chose. Ça fait quelques années que j'ai appris ça, et à tout bout de champ dans mes prières, moi, j'en parle à Dieu de ça. On trouve ça dans Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4, c'est marqué, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, la bonté de Dieu, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Voyez-vous pourquoi je demande à Dieu que sa bonté me pousse à la repentance? Parce que ça vient de lui, cette poussée-là. J'ai des choses à faire en cours de route, mais j'ai besoin que Dieu me pousse dans cette direction-là, qu'il m'aide, qu'il m'encourage de ce côté-là, pour que j'apprenne la crainte de son nom, le respect de son autorité, et que je sois en contact proche avec lui pour lui plaire et développer son caractère. Et la force nous vient à ce moment-là de lui. Et on est en train de développer la force pour avoir le royaume, pour entrer dans le royaume de Dieu. On est à ce moment-là violent, on est zélé pour dire « J'y tiens au royaume, Père. J'ai des difficultés, j'ai des problèmes de toutes sortes, mais je veux y arriver et je sais que c'est seulement par toi. Alors, je reste proche de toi, je te demande de m'aider et je te demande de m'aider à ne pas me laisser aller, à me laisser éloigner. » Si j'ai tendance à m'éloigner, interviens pour que je sois réveillé, pour que je continue à me repentir. C'est ce qu'on célèbre au cours de la fête des pains sans levain. Continuer de se repentir. Et c'est pour ça que la fête dure 7 jours. C'est un repentir qui doit durer jusqu'à son terme, jusqu'à temps que ce soit parfait. On ne l'atteindra pas dans la vie présente, mais Dieu va nous rendre parfait au bon moment. Et le repentir, c'est le fondement. C'est le fondement du message de l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce lien-là. Le repentir, c'est-à-dire regretter d'avoir transgressé les lois de Dieu et vouloir vivre selon ces lois pour avoir la force, justement, d'entrer dans le royaume et avoir ce qu'il faut, c'est le fondement du message de l'Évangile. Parce que quand vous allez voir dans Marc 1, verset 14-15, c'est quoi l'Évangile? C'est la base, là. Le Christ a dit ceci, c'est dès le début de son ministère. Cette déclaration-là contient beaucoup. Il a dit, le temps est accompli. Oui, parce que lui devait venir en tant qu'agneau de Dieu, il était là. Le temps est accompli, il y a des étapes qui se font. Et il y avait une étape qui était en train de se faire dans le plan de Dieu, une étape magistrale qui était le lancement du plan de Dieu, la Pâque qui allait être faite par l'agneau de Dieu lui-même qui allait donner sa vie. Le temps est accompli, donc il y a des étapes qui se font. Marc 1, versets 14 et 15, le Christ dit, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Il était proche de plusieurs façons, parce que le roi de ce royaume-là était là. C'est lui qui le disait, c'est lui qui en parlait. Et l'établissement du royaume comme tel dans le monde, ça approchait dans l'histoire du monde parce qu'il y avait déjà quelques milliers d'années d'écoulées et ça allait vers son terme. Donc, dans la vue d'ensemble du temps, le royaume de Dieu s'approchait. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, repentez-vous. Première chose, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et lui, la bonne nouvelle qui était venue annoncer, c'est que ce monde souffrant n'allait pas continuer éternellement, mais qu'un jour, Dieu allait intervenir pour mettre un terme aux misères humaines, en envoyant le Christ sur la terre une deuxième fois, où il allait venir à ce moment-là établir son gouvernement, et établir la paix, mettre un terme aux guerres, apporter la justice, sans laquelle il ne peut pas y avoir de paix. Regardez ce qui se passe dans le monde. Pourquoi il y a tant de guerres aussi? D'accord, les hommes sont méchants, mais les injustices créent d'autres injustices parce qu'il y a des réactions aux injustices qui font que ceux qui ont été maltraités veulent s'en prendre à ceux qui les ont maltraités. Alors, c'est un cercle sans fin. L'injustice crée les guerres et les guerres créent l'injustice. Et c'est pour ça que le Christ est appelé le roi de justice. Parce qu'on va commencer sur la terre par établir ce qui est juste. Et après, la paix va venir. Ça ne peut pas être dans l'autre sens. On ne pourra pas imposer la paix alors qu'il va continuer à avoir des injustices. Je pense que vous commencez à voir le lien entre les deux. Il va falloir qu'on établisse la justice et après, les hommes vont pouvoir vivre en paix. Alors, il dit, repentez-vous. Nous, on a à changer. Parce qu'on a un tempérament guerrier aussi. Quand on transgresse les lois de Dieu, on est méchant. Et dans ce sens-là, on a un tempérament guerrier. Et le bout de ça, c'est une haine qui va jusqu'à la destruction totale. Ce que l'humanité va être en train de faire bientôt quand le Christ va revenir. Quand les hommes vont s'égorger, comme la Bible dit, les uns les autres, à la dernière limite. Repentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle d'un changement total de monde qui s'en vient. On en rêve. On voit des choses dans la Bible qui nous amènent à imaginer un peu, comment ça va être formidable. Quand il parle que dans les rues de Jérusalem, il y aura encore des vieillards, des gens âgés qui vont être assis avec leurs bâtons à la main pendant que les petits-enfants jouent dans les rues, ce qui n'est pas le cas à Jérusalem actuellement. Quand les bombes tombent, quand il y a des meurtres tous les jours, des choses comme ça. Le monde va connaître la justice et après connaître la paix. C'est pour ça que les familles seront enfin heureuses, ne seront plus bombardées de méchanceté et de pièges de toutes sortes, que les couples vont vivre une vie de famille normale, stable, et qu'ils vont avoir soin chacun de leurs enfants. On va leur montrer, on va les aider. Et ces enfants-là qui auront appris, ils vont répéter les mêmes choses. Comme aujourd'hui, malheureusement, ça marche à l'inverse. Ceux qui n'ont pas appris parce qu'ils ont été rejetés quand ils étaient enfants ou que les parents se sont séparés ou qu'il y a eu de la violence familiale ou tout ça, malheureusement, ils sont portés à répéter ce qu'ils ont appris. On va inverser le processus. Et à ce moment-là, il y aura justice, il y aura paix et les gens vont vivre en paix. Comprenez-vous pourquoi il faut tellement prendre au sérieux notre appel? Le repentir, la fête des pains sans levain, la vivre avec enthousiasme, pas comme un fardeau. Non. C'est notre libération, puis c'est la délivrance de l'humanité bientôt. On fait les choses qu'on a à faire, mais on est à l'intérieur d'une bénédiction extraordinaire. C'est à ce à quoi Dieu nous a appelés. Allez à Philippiens chapitre 1, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 1. Un passage que j'aime beaucoup, que je trouve très encourageant. Nous ne sommes pas encore parfaits. Je ne vous apprends rien. Et ça nous arrive de tomber, malheureusement. Et nous nous en repentons, comme on en a parlé aujourd'hui, on demande pardon, et on travaille à ne plus commettre la faute. Jusqu'au jour où, si on est en train de faire ça au moment du retour de Christ, on est encore en train de vivre dans l'esprit de la fête des pains sans levain pour s'améliorer encore, là, on sera rendu parfait par Dieu. Il va nous figer, autrement dit, dans la direction où on est parti, comme du ciment qui durcit à un moment donné. Tant qu'il n'est pas rendu dans sa forme finale durcie, il est encore malléable. Alors nous, on est encore malléable, on s'en va dans cette direction-là. Mais le jour où Christ va revenir, si vous et moi, nous sommes encore en train de vivre dans l'esprit de la fête des pains sans levain, Dieu va nous donner cette perfection-là qu'on est en train de viser. Il va nous la donner. Ça va nous être accordé aussi. Regardez cette promesse-là ici. Moi, je l'ai souligné en vert, comme toutes les promesses dans ma Bible, je souligne en vert. Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, et Dieu vous a appelé, si vous comprenez les messages qu'on vous donne, si vous observez les fêtes de Dieu comme vous êtes en train de le faire, Dieu vous a appelé et il vous a donné de comprendre, il vous aide à avancer. Et il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, comme il a commencé avec vous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est-à-dire le jour où le Christ va revenir. C'est là qu'il va nous rendre parfaits. Pourquoi? Parce qu'il va nous transformer à ce moment-là en être totalement spirituel, avec la même puissance que Dieu, mais avec son caractère parfait. On n'aura plus notre caractère humain limité avec toutes ses imperfections. C'est ça la grande différence. Alors, voyez-vous l'importance des promesses de Dieu de s'en aller pour viser le jour où on sera capable de ne plus jamais pécher. C'est ça que ça veut dire. Le jour où on sera rendu parfait, on va être capable, j'aime bien cette expression-là, capable de ne plus jamais pécher. Ça dit beaucoup, là. Et à ce moment-là, ça sera automatique parce que ça sera notre nature à nous, comme c'est la nature de Dieu. C'est marqué dans la Bible que Dieu n'est pas tenté par le mal. À ce moment-là, comme on entrera dans la famille de Dieu, on ne sera plus tenté par le mal. On aura travaillé fort pour le vaincre et il va nous donner de le vaincre totalement. et il va nous rendre comme lui, et on ne sera pas tenté par le mal. Quand vous n'êtes pas tenté par quelque chose qui vous répugne, vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'avez pas envie de le faire, ça va être la même chose. Dieu n'est pas attiré par le mal. Il sait le prix que ça a coûté pour payer l'amende de ça. Et la démarche dont je vous parle, la démarche de la fête des pains sans levain, après la Pâque, c'est une démarche du cœur. C'est pas juste des gestes. C'est pas un rituel. On fait des choses physiquement, comme sortir le levain, manger des pains sans levain, c'est vrai. Mais c'est pas juste un rituel. Ça représente quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose d'intérieur. Un changement de cœur, un changement d'attitude. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. On va lire le verset 12 et 13. Regardez ce que Dieu dit, et c'est le cas de certains d'entre nous qui avions perdu notre route momentanément quand l'Église a implosé il y a quelques années. Et c'est encore le cas de certains qui ne sont pas revenus, mais pour lesquels j'ai espoir. Et je continue à prier que ceux qui appartiennent à Dieu, qui ne sont pas encore revenus au bercail ou à la maison, que Dieu les ramène. Regardez verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, avec des regrets d'avoir transgressé les lois de Dieu. » Verset 13, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. » Oh, Dieu est encore prêt à accueillir même ceux qui lui appartiennent, mais qui ont quitté la route momentanément, comme certains d'entre nous ont fait. Dieu est rempli de patience, de miséricorde. Et comme je dis à certains qui pensent à leurs membres de famille qui étaient dans l'Église autrefois et qui ne sont plus là, je leur dis, l'histoire n'est pas finie. Continuez de prier pour les vôtres et que Dieu prenne les décisions qu'il veut prendre et qu'il donne la bénédiction qui est la meilleure pour chacun. Parce que Dieu sait ce qui est le mieux pour chacun de nos enfants ou de nos êtres chers. Psaume 34. Psaume chapitre 34. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Vous savez, dans le texte original, c'est un petit peu plus précis, comme ça devrait être en français. C'est « Nombreuses sont les afflictions du juste ». Parce qu'on ne vit pas dans un monde de paix, ni dans un monde de justice, là où il n'y a aucun problème. Mais il dit, nombreuses sont les afflictions du juste, que ce soit par des conséquences de ses anciennes fautes qui ont pu être pardonnées, ou que ce soit par la méchanceté de d'autres autour, ou que ce soit par les circonstances de la vie, ou quoi que ce soit. Il dit, on a tous des afflictions à connaître. Et en même temps, c'est des tests de préparation pour nous, d'apprendre à compter sur Dieu et d'apprendre à voir le grand plan. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est important? Il dit, « Nombreuses sont les afflictions des justes, de ceux qui pratiquent la justice, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si le juste compte sur Dieu, et regardez le verset 19, ça c'est tellement encourageant parce que ça va avec le repentir dont je vous parle. Ça va avec le repentir dont je vous parle. L'Éternel est prêt, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé pour avoir transgressé ses lois. Et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. L'abattement d'avoir transgressé ces lois de Dieu. Il dit à ceux-là, il offre le salut. Il les sauve. Il les amène vers la vie éternelle. Comprenez-vous qu'à ce moment-là, notre capitulation, elle doit être totale. Ce Dieu-là qui nous a donné la vie, le souffle, les années qu'on a eues et qu'on aura encore pour la plupart d'entre nous, ce Dieu-là qui veut en plus nous donner la vie éternelle et qui a payé un prix énorme pour que nous soyons lavés de nos fautes au baptême, qui a même donné la vie de son Fils, et en ce qui concerne Jésus, qui a donné la sienne dans des souffrances atroces, il veut qu'on arrive au terme et il va tout faire pour nous y amener. Et c'est pour ça qu'il dit, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement et qui veulent changer. Bien sûr, il nous arrive d'avoir des journées moins bonnes, des journées où on est moins zélé, où on est moins engagé, ou moins soumis. On est humain. On n'est pas stable comme ça. Ça fait partie de notre démarche. Et ça nous arrive d'avoir des doutes même. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Et c'est un arme d'ailleurs très, très bonne de la part de l'adversaire de semer des doutes dans notre esprit. Même semer le doute qu'on ne pourra pas y arriver. Vous n'arriverez pas au royaume. Regardez, vous avez tombé. Regardez comment vous êtes faible. C'est la meilleure recette pour nous ralentir puis nous décourager. C'est pour ça que là, il faut se tourner vers Dieu en sachant que c'est lui qui est le grand patron. Et que Dieu a promis qu'il ne laisserait pas les tentations au-delà de nos forces nous arriver. Mais comme c'est marqué dans la Bible, qu'avec l'épreuve, avec le test, avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. C'est une promesse. Celle-là aussi, si je me rappelle bien, je l'ai souligné en vert dans ma Bible. Avec toute épreuve ou toute tentation, il nous offre le moyen d'en sortir. Mais il faut le vouloir. Il faut le prendre, le moyen. Parfois, on a des moments de découragement, et le découragement a tendance à amener le découragement. Mais il faut tout de suite se tourner vers Dieu puis demander son aide. Changer de poste. Changer de station pour ne pas avoir des choses négatives dans notre esprit. Les remplacer par des pensées positives, soit de sa parole ou trouver une activité qui va nous sortir de l'état mental où on est pour ne pas rester dans cet état de doute ou de moment de découragement. Ne jamais craindre qu'on n'arrivera pas au but parce que le Christ va nous y amener si nous sommes fidèles. Alors, il faut se hâter, s'empresser de revenir à Dieu quand on a faibli un peu, compter sur lui et tout de suite faire ce qu'on a à faire et remplir notre vie aussi. Parfois, il y a des vides. Certaines personnes ont certaines difficultés spirituellement parce qu'ils laissent passer du temps, ils font pas assez de choses, ils s'occupent pas assez et ils s'occupent pas assez premièrement des affaires de Dieu, de l'étude, de la prière chaque jour. Et ensuite, parfois, il y a des vies trop tranquilles, trop vides. Et là, ça laisse l'espace à l'adversaire de venir mettre plein de choses. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça qu'il faut se trouver des activités. Il y a des gens même qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas de travail régulier pour gagner leur vie, mais qui vont rendre service, qui vont visiter les gens dans les hôpitaux, qui vont envoyer un petit mot à un autre de l'église, donner un petit coup de téléphone. Vous savez, ça n'a pas besoin d'être 10 heures par jour. Mais ça peut être le fait surtout de se préoccuper de d'autres, rendre des petits services, meubler sa vie de cette façon-là. Par contre, c'est vrai qu'on a encore des difficultés, je ne vous apprends rien, mais il faut s'encourager aussi. Et je vous dis ça parce qu'on a besoin de l'entendre, cette chose-là. Il faut s'encourager des progrès qu'on a déjà de fait. Vous savez, il ne faut pas regarder juste tout ce qui reste à faire. On s'encourageait quand on travaillait sur la ferme qu'il y avait des gros travaux. Des fois, on trouvait ça long, les jeunes, de continuer là-dedans. Puis là, mon frère nous disait, écoutez, faites ce que vous avez à faire aujourd'hui. Demain, c'est une autre journée. Appliquez-vous à ce que vous avez à faire, puis regardez, on a tout ça de fait, là. Il nous en reste moins qu'on avait à faire, ou on a fait tant de choses aujourd'hui. Et quand on regardait ce qu'on avait fait, bon, c'est encourageant. On avait réussi des choses. Spirituellement, il n'y en a pas un ici qui n'a pas réussi des choses. Considérez ces choses-là. Dites merci à Dieu, puis mettez-les dans votre bagage comme encouragement personnel. Rappelez-vous-les quand vous en avez besoin. Il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de tests pour les membres de l'Église, et c'est vrai. Et il y en aura d'autres encore plus grands. C'est pour ça qu'il faut passer ce qu'on a à vivre maintenant en suppliant Dieu, puis en s'approchant de lui. Parce qu'on sera capable de passer des situations plus difficiles, mais avec sa vision des choses. Et dans ce temps-là, on est capable d'aller plus loin. Parce que même si les circonstances autour peuvent être complètement contraires, si on a la vision que c'est Dieu qui va nous amener à sa façon, à bon terme, et qui va établir la situation, ça change tout. On est capable à ce moment-là d'avancer et de résister aux attaques de l'adversaire. Il faut faire confiance à celui que la Bible appelle le rocher des siècles. Le rocher des siècles, le Christ. C'est intéressant parce que vous allez peut-être vous rappeler une image qui m'avait frappé de la part de M. Meredith à un moment donné. Il avait dit, il parlait de l'Église, mais ça s'applique aux membres aussi. Il dit, parfois, on a l'impression dans notre vie qu'on tient seulement par un fil. C'est tellement lourd, c'est tellement compliqué, où il y a des situations difficiles. On a l'impression que spirituellement, on tient par un petit fil. Mais alors qu'en réalité, on a les pieds sur le rocher des siècles, sur un immense rocher qui s'appelle le Christ, qui est la fondation, qui est le fondement de l'Église. Ésaïe 41, juste un peu plus loin, un petit bout de phrase encourageante. Ésaïe chapitre 41. Et le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voyez-vous que si je suis proche de Dieu, si je lui fais confiance, si je suis en contact constant avec lui, c'est lui qui me dit ça. Je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je vais prendre soin de toi. Je vais te fortifier. C'est moi qui suis ton secours. Vous savez une chose? Je ne vous apprends rien, mais c'est intéressant de le réaliser. Dieu, il est très présent dans ses fêtes, parce que c'est ses fêtes. Et pour lui, ça a une importance capitale, parce qu'à ce moment-là, ce sont ses appelés sur la face de la terre, les quelques petits milliers de personnes qui observent les mêmes fêtes au même moment. Pour Dieu, ce sont les êtres qu'il chérit maintenant et qu'il prépare, parce qu'il veut que ces êtres-là, qui vont arriver à la vie éternelle, soient ceux qui aident les autres êtres humains physiques après le retour de Christ. Lui, il a l'ensemble du plan dans sa tête. Alors, c'est pour ça que Dieu est présent dans ses fêtes. Si nous sommes présents dans ses fêtes par le zèle et par l'empressement, nous allons être fortifiés. Il dit, si vous observez mes commandements, comme les fêtes aussi, hein, vous allez être capable de vous emparer du royaume. C'est ça qu'il a dit aux Israélites physiquement. Il nous dit la même chose spirituellement. C'est les zélés, c'est les violents qui vont s'emparer du royaume. Et c'est pour ça qu'il faut être fortifié, il faut être réjoui, encouragé, mais en étant présent de tout cœur dans ces fêtes, pour les vivre avec reconnaissance, puis faire ce qu'on a à faire. Dans la même mesure où on y mettra notre cœur, Dieu va nous donner exactement ce que nous avons besoin. Et vous allez voir, si nous le faisons, il va nous aider à faire des choses qu'on n'avait pas fait auparavant. On va réussir des choses dans l'année qui vient qu'on n'avait pas réussi auparavant. On va comprendre des choses qu'on n'avait pas comprises auparavant. Parce que Dieu est un Dieu qui révèle. Et Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent et il leur dit d'avance comment faire et comment agir dans ces circonstances-là. Dieu, quand c'est le moment de ses fêtes, il évalue le cœur de ses serviteurs. Ça ne doit pas nous surprendre de le voir de cette façon-là, parce que c'est avec ce petit groupe-là qu'il travaille maintenant. Et quand vient le temps de ses fêtes, c'est un moment particulier, comme un chef d'armée qui passe ses troupes en revue pour voir dans quel état ils sont. C'est ce que Dieu fait maintenant. Regardez Ésaïe 66. Et c'est lié directement au fait que nous devons continuer de nous repentir, c'est-à-dire vivre toute l'année dans l'esprit de la fête des pains sans levain. Ésaïe 66 et le verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Alors, il se positionne ici, il dit, je suis l'autorité suprême sur tout ce qui existe. Voici sur qui je porterai mes regards. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il a les regards aujourd'hui sur ceux qui vivent la fête des pains sans levain avec le désir de faire mieux, d'aller plus loin. Il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. L'esprit abattu d'avoir transgressé les lois de Dieu en désirant ne plus le faire. Sur celui qui craint ma parole, sur celui qui respecte mes directives, mes commandements. Voyez-vous pourquoi je vous disais qu'aujourd'hui, au moment des fêtes, Dieu regarde de tout proche le cœur de chacun et de chacune d'entre nous pour faire une évaluation. On vit, et je ne vous apprends rien, dans des temps de plus en plus confus et les mois qui sont devant nous seront plus actifs sur la scène mondiale. Il y aura davantage de bouleversements qu'il y en a eu. Nous venons à peine, il y a quelques jours, de commencer l'année sacrée. L'année de Dieu ne commence pas au mois de janvier, elle commence quelques jours avant le début des fêtes du printemps. Dieu compte les choses de cette façon-là. Alors, nous sommes entrés dans l'année sacrée. Et si nous persévérons à nous repentir, à revêtir le Christ, à devenir de plus en plus comme lui, Dieu va faire réussir nos travaux. Dieu va être avec nous dans ce qu'on fait. Il dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Je vais vous bénir. » C'est exactement dans la même mesure. Dieu va nous bénir. Et non seulement ça, Dieu va nous protéger parce qu'on aura besoin de sa protection encore davantage dans les temps qui approchent. C'est intéressant de voir. Et en terminant le message d'aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer quelque chose que Dieu a fait et que Dieu va refaire encore pour ses serviteurs. Ça a le rapport avec la sortie d'Égypte, avec ce que Dieu a fait avec les Israélites, et ça a rapport avec nous que Dieu va amener à un lieu de sécurité à un moment donné quand les temps seront venus. Quand les temps seront devenus trop difficiles pour ses enfants fidèles et qu'il va les amener à un lieu de sécurité pour leur donner une formation finale. Exode chapitre 12, s'il vous plaît. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, regardez le verset 42. On l'a lu lors de la soirée mémorable. On l'a vu dans certains sermons. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel parce qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte, les Israélites. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Et aujourd'hui, nous sommes ses descendants spirituels. Et hier soir, nous avons célébré la sortie d'Égypte en célébrant la soirée mémorable qui représentait justement cette sortie d'Égypte. C'était le début du 15e jour du premier mois de l'année sacrée. C'était donc le départ de la sortie d'Égypte, le commencement de la sortie d'Égypte, durant la nuit. Comme nous, on a fait hier soir, on a célébré notre sortie de l'Égypte spirituelle actuelle. Question. Une question qui a été soulevée à un moment donné, puis pour laquelle j'aimerais donner une réponse. Ça nous montre la grandeur de Dieu et ça nous montre le plan de Dieu en même temps. Question qui a été soulevée par rapport au lieu de sécurité. On sait que lorsque Dieu va amener une partie de l'Église au lieu de sécurité, il va amener tous les gens qui sont fidèles. Mais dans ce groupe-là, vous allez avoir des gens de tout âge, de toutes conditions de santé, vous allez avoir des gens handicapés et de toutes sortes, des membres de l'Église. Allez à Apocalypse chapitre 12. C'est important qu'on voit ça. Apocalypse chapitre 12. Dieu ne laisse rien au hasard. Dieu est tout-puissant. Ici, vous avez justement la description où Dieu a inspiré Jean d'écrire ce qui va se passer à la toute fin, quand Dieu va amener son Église dans un lieu de sécurité pour être protégé de la grande détresse qui vient. Mais ça n'aura pas le seul but. Ça sera en même temps une préparation finale, juste avant le retour de Christ. Parce qu'écoutez, aussitôt que le Christ revient, ces gens-là qui auront été fidèles, qui auront été protégés physiquement, d'accord, vont être changés en être spirituels au moment du retour de Christ. Mais tout de suite après, ils prennent leur fonction d'aider les gens, d'enseigner les gens, de guérir les nations, les encourager et ainsi de suite. Alors, c'est en même temps la préparation finale. D'un côté, oui, c'est la protection de la grande détresse, mais de l'autre côté, c'est la préparation finale pour les fonctions que nous allons devoir exercer. Alors, lisons ce qu'il y en est. Apocalypse 12, verset 13. « Quand le dragon, Satan, vit qu'il avait été précipité sur la terre, ce qui arrivera bientôt, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. » Ici, il parle de l'Église, l'Église de Dieu. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. » Les deux ailes du grand aigle, c'est une façon figurée de parler, parce qu'il parle de la même façon lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte. On voit la même expression dans l'Ancien Testament. C'est une façon de dire qu'il les amène ailleurs. Alors, il dit, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. » Certains ont pensé que ça allait être automatiquement les avions. Peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas. Dieu a en tête ce qu'il a en tête et ça va se réaliser comme il le dit. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert. Donc, on sait que c'est dans un désert. Ce n'est pas dans le ciel, comme certains prétendent ou comme certaines religions enseignent. C'est dans un désert. Et à ma connaissance, les déserts se trouvent sur la terre. Il y en a un certain nombre. Dieu a sûrement un désert bien précis en tête. On n'a pas l'information, mais afin qu'elle s'envole au désert, cette église, cette petite église, vers son lieu, donc vers un lieu précis, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est le langage biblique qui parle d'années. Un temps, une année, des temps au pluriel, deux années, ce qui fait trois, et la moitié d'un temps, une demi, trois années et demie. Exactement le temps de la grande détresse. OK? Alors, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, trois ans et demi, loin de la face du serpent. Et ça, c'est intéressant, parce que ceux qui auront la bénédiction et en même temps la responsabilité d'aller au lieu de sécurité ne seront pas dérangés par Satan et ses démons. Loin de la face du serpent. Alors que Satan va continuer à amener les êtres humains à s'autodétruire sur la planète. Et regardez, « Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. » C'est encore Pharaon, là. C'est la même chose. Alors que l'Église va fuir, comme les Israélites ont fui l'Égypte, Pharaon a lancé son armée derrière les Israélites. À ce moment-là, une dernière fois, Satan va essayer de détruire le petit peuple de Dieu qui sera en fuite vers le lieu de sécurité. « Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve, c'est-à-dire l'armée qui sera envoyée derrière ce petit nombre de personnes. » Et c'est pas la première fois que ça arrive que la terre ouvre sa bouche. On l'a vu à différentes reprises dans la Bible quand des gens se sont rebellés contre les serviteurs de Dieu, puis qu'à un moment donné, la terre s'est ouverte. Ils ont été engloutis avec leur maison et tout ce qu'ils avaient, puis la terre s'est refermée. C'est pas nouveau. Engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Bon, maintenant, ici, on voit un autre groupe qui fait aussi partie de l'Église de Dieu, mais qui ne sont pas amenés au lieu de sécurité. Regardez. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » Donc, c'est encore l'Église, c'est ceux qui restent en arrière, ceux qui n'ont pas été amenés. C'est Dieu qui fait la distinction de qui va aller et de qui n'ira pas. OK? Alors, c'est Dieu qui fait la distinction. Alors, Satan se tourne à ce moment-là, vu qu'il n'a pas réussi à détruire le petit groupe qui s'en va dans un lieu de sécurité au désert. Il se tourne de côté et fait la guerre au reste des membres de l'Église qui sont restés derrière, à ceux qui gardent les commandements. Voyez-vous? Ça, c'est l'Église de Dieu. Mais qui n'ont pas le zèle, qui n'ont pas tout le cœur avec Dieu, qui ont pris ça mollement, qui n'ont pas pris leur appel au sérieux, qui ont été tièdes, Laodicée. Il dit, « Je te vomirai de ma bouche. » Ce sont ceux-là, et c'est des membres de l'Église. Et quand vous voyez dans Apocalypse que le Christ dit, « Je vais vous vomir de ma bouche », ce n'est pas pour simplement dire, « Je vous déteste ». Non, c'est parce qu'il les aime. Il les envoie dans la grande détresse pour qu'ils aient l'occasion de prouver à Dieu qu'ils veulent vraiment lui appartenir, même si c'est au prix de leur vie. C'est ça que ça veut dire. Pour vous, mirez de ma bouche, il va les rejeter dans la grande détresse en leur donnant une dernière chance de se qualifier. Alors, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, il y a deux groupes dans l'Église de Dieu au temps de la fin. On parle de l'Église de Dieu, on ne parle pas du monde, là. On parle de l'Église de Dieu, il y a deux groupes. Un premier groupe que Dieu va emmener dans un lieu de sécurité pour les cacher, et leur donner de se préparer finalement, et l'autre groupe qui reste derrière, qui devront affronter Satan dans ses pires colères. Bon, maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qui va arriver aux gens malades, aux gens âgés, aux gens handicapés, quand va venir le temps de partir? Parce que c'est pas évident de voyager. On ne sait pas comment ça va se faire, le voyage, là. Mais il y aura des gens de toutes conditions, comme il y a actuellement des gens de toutes conditions dans l'Église. Voyons ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. On va aller dans Psaume 105. Vous pensiez peut-être que j'allais vous amener dans Exode encore, non? Je vais vous donner une petite surprise. Psaume 105. C'est très révélateur et très encourageant. Voyez-vous, à la sortie d'Égypte, je pose une question avant qu'on aille lire le verset. Pensez-vous que sur les 3 millions plus de personnes qu'on estime être sorties d'Égypte à ce moment-là, pensez-vous que c'était tous des gens de 25-30 ans, athlétiques, solides, aucun problème de rhumatisme, aucune blessure, aucun vieillard, aucun boiteux, aucun infirme, aucun aveugle, tous des gens en parfaite condition? Parce que oui, ça y prenait ça, pauvre Dieu, il ne pouvait pas amener des gens boiteux et des gens incapables de se déplacer. Non, c'est clair que sur les 3 millions environ de personnes qu'il y avait là, il y avait des gens de toutes conditions. Et ça, c'est frappant de voir comment Dieu a procédé. C'est un grand encouragement pour nous. Psaume 105, lisons le verset 36. On voit qu'il parle à ce moment-là de la sortie d'Égypte. « Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, le soir de la Pâque, toutes les prémices de leur force. » Et regardez le verset 37. « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. » Jusque-là, ça va. Mais voyez le dernier bout. « Et nul ne chancela parmi ses tribus. » Aucun être humain, ni jeune, ni vieux, ni malade, ni blessé, n'a chancelé lors du déplacement, et je vous le rappelle, à pied, sur une longue distance. Nul ne chancela parmi ses tribus. Aucune maladie, aucun membre brisé. Soudainement, tous avaient une santé parfaite. C'est ça que ça veut dire. Il faut tirer la conclusion. C'est sûr que ça a été un grand miracle. Et j'entendais quelque chose de M. Varovitz là-dessus dernièrement, et c'est ce qui m'a donné l'idée un petit peu de développer cette chose-là. Dieu a fait ce grand miracle-là, que tout le monde soit en parfaite condition pour être capable de faire la route et de se rendre. Ça s'est peut-être produit la veille de leur sortie d'Égypte, le soir de la Pâque, quand ils ont mangé l'agneau qui représentait le Christ qui allait donner son corps pour que nous soyons guéris. Parce que les gens étaient debout avec leurs bâtons à la main aussi, prêts à partir. Ils n'ont pas mis des civières pour amener les malades ou quoi que ce soit. Ils étaient là, debout, prêts à partir. C'était 24 heures auparavant, au moment où ils ont pris la Pâque, au moment où ils ont mangé l'agneau. Et c'était pour les préparer au voyage. C'est possible que ce soit à ce moment-là que Dieu ait fait ce miracle de leur donner à tous la force dont ils avaient besoin. Et comme je dis, c'était un signe précurseur de ce que le Christ allait accomplir pour nos guérisons, 1400 ans après. Voyez-vous que le Dieu que nous servons, le Dieu de la Pâque, le Dieu des pains sans levain, c'est un Dieu qui est puissant. C'est un Dieu qui est extrêmement précis. On découvre dans sa Bible des perles qui nous font comprendre les détails de son plan. C'est un Dieu qui a tout prévu. L'année sacrée vient de commencer. Les prophéties se réalisent. Le Christ dit, quand vous allez voir ces choses arriver, levez vos têtes. Sachez que votre délivrance est proche. Il faut continuer de nous préparer chaque jour pour être prêt n'importe quand à tout ce qui vient.